Bonjour à toutes et à tous. Le chantier des nouvelles vagues, cette semaine, c'est la mémoire. Lundi, nous évoquions les usages politiques et l'enseignement des mémoires féministes et du fait colonial. Hier, les nouvelles pratiques, les nouvelles pratiques et nouvelles technologies permettaient à des malades de retrouver la mémoire ou de ralentir sa perte. Hier, c'était bien hier, une maîtresse d'école, trois enfants et une documentariste faisaient parler la mémoire de Madeleine et celle de la ville d'Aubervilliers. Et demain, le mash-up découpera et collera dans la mémoire du cinéma. Aujourd'hui, on creuse la mémoire d'un lieu à venir. Il n'y a de Clichy-Montfermeil que le nom. J'imagine que tout va surtout bouger dans les années à venir, les travaux dans l'espace public vont tout transformer. Là où j'ai mes souvenirs, ça n'a pas bougé d'un iota. C'est comme si on avait muré cette tour. C'est comme si, en quittant les lieux de mon enfance, on avait arrêté le temps. J'y suis donc revenue, 30 ans plus tard, et j'ai retrouvé exactement la même chose que ce que j'y avais laissé. Ça, c'est juste un peu délabré depuis. Tout est resté à l'identique. C'est une chose qui n'arrive jamais dans la vie de retourner sur son lieu d'enfance. C'est très rare. C'est cette stratification temporelle qui se joue ici. Retourner dans un endroit où des choses essentielles se sont passées alors que je suis devenue adulte produit un choc. Ça ressemble à de la science-fiction. À chaque fois que j'y retourne, il se passe quelque chose contre nature. Je sens que je joue à quelque chose de dangereux. Éric Reinhardt, le 5 mai 2016, il est 14h passé de 2 minutes, la mémoire joue dangereusement. Bienvenue dans les nouvelles vagues. En fin d'émission, chaque jour, on propose à quelqu'un de partager avec nous quelque chose d'important pour lui. Cette semaine, Marie-Josée Justamont se prête à l'exercice. Aujourd'hui, elle dirige le Festival des Suds à Arles, qui fait vibrer les musiques du monde. Mais elle a, dans une vie précédente, travaillé pour l'autre grande manifestation de la ville, les rencontres photographiques. Elle évoque aujourd'hui sa rencontre, sa propre rencontre fondamentale avec l'art photographique et son travail avec Lucien Clergue. Récit vers 14h50. Et c'est le quatrième moment d'une semaine sur la mémoire. Aujourd'hui, la mémoire cessait avant le lieu. Elle devient un véhicule partageable qui ouvre la circulation entre le passé, le présent et le futur. Elle devient un pigeon voyageur. Qui a déjà observé un chat ou un chien ou un coyote arpenter l'espace avant de s'y lover, sait que faire son trou, c'est imaginer que quelque chose peut avoir lieu. Où l'on peut faire son trou dans un territoire, dans un livre, dans une mémoire, quelque chose peut avoir lieu dans une mémoire, si on fait de la mémoire un espace. Voilà plusieurs années que l'on projette de construire à Clichy-Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, un lieu pour l'art, la recherche et la pensée. Anne Guillaume et Océane Ragoussi, vous êtes artistes-chercheuses associées à la préfiguration de ce lieu, et vous travaillez à révéler une mémoire possible de cet endroit à venir, un endroit où d'autres pourront aller ensuite et qui peut-être ne le savent pas encore. Et il se trouve qu'un endroit où aller, c'est le titre de la collection Actes Sud, dans laquelle est parue la nouvelle Construire un feu de Jacques Kerouac, nouvelle qui sert de territoire superposé à vos recherches, mais aussi à la publication de votre Construire un lieu, où vos propres récits, vos photos, vos citations et reports d'entretien y prennent place dans ce livre et dans cette nouvelle de Kerouac, comme dans un lit de rivière. Bonjour à toutes les deux et bienvenue.
Bonjour.
Quelle place occupait la mémoire dans vos travaux respectifs et recherches respectives d'artistes et d'architectes avant que vous travailliez pour ce projet-là? Anne Guillaume.
Moi, je suis fille d'archéologue, alors j'avoue que la mémoire, le territoire, le terrain, la terre et l'odeur de la terre aussi, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait dans mon quotidien, on va dire. Et mon travail plastique s'oriente clairement autour... pas forcément de la mémoire, mais peut-être de cette matière qui est comme une sorte de volume dans lequel on peut évoluer, s'immerger, être à l'intérieur, quoi.
Par exemple, je pense à un projet qui était le Never Ending Project et la manière dont vous vous êtes inscrit là-dedans en travaillant le statut des objets, la persistance des objets, des formes, des pierres. Ça travaille plus le passé que la mémoire dans ce cas-là?
Je crois que pour moi, les objets, si on ne les fait pas parler, ils ne parlent pas. Donc c'était plutôt, je crois, Never Ending Object, c'est l'histoire d'un objet sans fin, mais sans fin parce que nous, on continue à les faire parler, à les faire évoluer et puis surtout à les faire circuler à l'intérieur de toutes nos subjectivités, oui.
Et Océane Ragoussi, la mémoire dans votre travail à vous?
Pour les architectes, la mémoire, c'est tout, c'est presque tout. Et en même temps, c'est une question difficile. La mémoire est un outil projectuel aussi pour les architectes. Je suis une architecte, mais je suis une architecte qui ne construit pas, puisque j'aide les projets à vivre, des projets d'architecture. Je travaille avec des architectes et avec tout un tas de gens. Et j'ai ce rôle qui est à la fois un rôle de médiation et d'accompagnement des projets. Donc, je travaille beaucoup aussi sur l'histoire des projets, architecturaux et leur devenir éventuel. Donc, pour moi, c'est un sujet intéressant, mais que j'élabore du point de vue de celui qui accompagne.
D'ailleurs, vous avez du coup trouvé très très vite votre place dans cette histoire d'histoire de projet, puisque vous êtes associé à un projet qui a une histoire, on va y revenir, et qui aura une histoire dans le futur, puisque cet endroit va exister. Vous intervenez à partir de quand et dans quel cadre dans cette histoire de préfiguration de Clichy-Montfermeil?
Ça a commencé à la fin de l'année 2015, puisque dans le cadre de programme qui s'appelle SPIP, qui est le programme d'expérimentation en art et politique de Bruno Latour, qui se passe à Sciences Po, nous avons reçu une commande à l'époque du ministère de la Culture qui s'est adressée à ce programme pour résoudre un problème public et pour répondre à une question qui concernait l'espace public. Et alors que le projet était dans les cartons, disons qu'il était en train de réémerger suite à toute une histoire intéressante, mais qui a montrer que parfois il a failli disparaître. Nous nous sommes emparés de cette commande qui concernait la construction d'un espace public et d'un projet culturel dans un cadre de modification et de transformation du territoire très très important.
Comment elle était formulée la question à l'époque par le ministère ou par la commande ?
Quand Olivier Manu est venu nous voir à SPIP, il était question de prendre à bras le corps ce sujet. Et d'aller sur le territoire, d'aller l'expérimenter, être vraiment avec lui pour pouvoir comprendre comment travailler le temps. Parce que c'est vraiment l'histoire d'un temps, le projet a un temps très très long puisque l'ouverture est prévue en tout cas pour 2023. Donc là on est en 2015-2016, donc ça laissait un temps fantastique pour inventer des expériences. Donc c'est pour ça aussi que Olivier Menot est venu nous voir en tout cas, pour travailler avec lui sur des formes d'expérimentation. Ouais.
Je suis Yves Lion, je suis architecte, urbaniste. J'aime bien dire architecte urbaniste en un seul mot presque, parce que c'est comme ça que je fais mon métier. Pourquoi ne pas s'emparer de ce bâtiment dont la carcasse est vide et qui est un bâtiment qui a l'intérêt de monter assez haut, de découvrir absolument tout le paysage de la région parisienne, et qui est en même temps l'emblème de la catastrophe sociale, et en même temps, ou peut-être aussi, possiblement en tous les cas, l'emblème de la transformation du quartier. On peut pas continuer à casser tous les bâtiments du pays. Là, actuellement, il y a une vraie folie quoi autour de ça. Quoi. En plus, d'une part, ça arrache des larmes aux habitants, et d'autre part, ça coûte cher. Quoi. Vous voyez, c'est ce squelette-là qu'il a. Il faut quand même 40% d'un projet neuf. La tour, elle représente, elle stigmatise, si vous voulez, l'échec. Mais le béton de la tour, lui, représente des possibilités d'espace, quoi, pour les gens.
Nous, on est, si je puis dire, l'arme au pied, puisque notre projet, il est déjà bien avancé. Le fait que le ministre de la Culture ait tranché, semble-t-il définitivement, permet effectivement maintenant de se lancer dans une phase opérationnelle de cette on va l'appeler Tour Médicis maintenant, qui aura un parallélisme avec la Villa Médicis de Rome, mais qui aura aussi des différences, et la différence majeure, justement, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que la Villa Médicis est assez repliée sur elle-même, tandis que nous voulons... Enfin, ça n'a de sens, d'ailleurs. Cette Tour Médicis n'a de sens que si elle permet à la population. Il faut que ça soit quelque chose qui bénéficie à la population.
Alors, il y a deux voix dans cet archive de 2011 diffusée sur France Inter dans l'émission Périphérie, celle de Claude Dillin qu'on vient d'entendre à l'instant, qui était maire de Clichy-Montfermeil, qui est décédé, et celle d'Yves Lion qui est architecte. Ils parlent tous les deux de ce fameux projet. On est en 2011 et l'histoire est déjà mouvementée pour ce projet-là. Est-ce que vous vous êtes plongé, et de quelle manière, dans la mémoire de ce projet de construction à venir ?
À vrai dire, on s'y est plongé et on a commencé par ça. Et il est évident qu'en arrivant sur le territoire, et on va vous raconter la manière dont on est arrivé la première fois sur ce territoire. Ce qui existe pour l'instant, c'est une tour, comme il est dit dans l'archive qu'on entendait, une tour qui fait 14 étages, qui a une présence sur le territoire, qui a un volume qui est très imposante et impressionnante. Et en même temps, on savait en arrivant que cette tour allait disparaître. puisque contrairement à ce qu'il était dit en 2011, le projet a beaucoup changé et il a été décidé de la destruction de cette tour pour plusieurs raisons, des raisons qui sont d'ordre économique, qui sont d'ordre d'organisation, puisque la tour se situe au pied, ou en tout cas il va y avoir une gare du Grand Paris Express qui va émerger, ou que l'on va creuser plutôt, au même endroit, et donc on va se servir de l'emprise de la tour actuelle pour la construction de cette gare. Donc lorsqu'on arrive, fin 2015, ou lorsqu'on s'empare de cette commande, la destruction a déjà été actée. Donc pour nous, l'histoire du projet, elle existe, mais en même temps, on ne se projette pas dans cette réhabilitation ou dans cette transformation possible, puisque sa destruction a été actée.
Il n'empêche qu'on se pose quand même la question de savoir est-ce que c'est plus intéressant pour les habitants aussi du territoire de continuer à voir sur leur paysage cette tour qui peut être réhabilitée avec une transformation de son usage, ou si c'est plus intéressant effectivement peut-être de casser le lieu pour le reconstruire. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre enquête aussi, parce que du coup on a passé l'année avec une certaine méthodologie, à savoir aller interviewer des gens, donc enquêter des gens, donc ça va aussi bien des acteurs du milieu de l'art contemporain comme les laboratoires d'Aubervilliers, main d'œuvre, que des gens sur place aussi. Donc on avait en fait ce rapport très très controversé, parce que certains disent que c'est beaucoup plus intéressant de garder quelque chose pour ne pas avoir à transformer le territoire, mais par contre changer son imaginaire à partir de l'existant. Et d'autres disaient peut-être c'est bien aussi d'enlever pour reconstruire. Après, cette tour là-bas est quand même le symbole d'un certain échec, puisque cette tour a jamais été vraiment habitée. Et donc finalement, on s'est tous dit à la fin que ce serait peut-être plus intéressant, pourquoi pas, de l'enlever pour la remettre.
Ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à une tour de logement, ou ce dont on entend parler dans le cas des destructions et des démolitions dans le cadre des rénovations urbaines et notamment des grands ensembles, c'est qu'on parle souvent de bars ou de tours d'habitation. Là, il s'agit d'une tour de bureau, donc il y a eu un certain usage, un usage lié au travail. Et donc, l'imaginaire et la mémoire qu'on y met et qu'on met à l'intérieur est tout à fait différente. C'est-à-dire qu'elle touche moins le rapport personnel que les gens entretiennent à un espace de vie, à un espace où ils ont pu projeter leur vie personnelle. Et là, il s'agit plutôt d'un espace de travail. Donc ça change aussi pas mal.
Notamment parce que cette mémoire est plus éclatée dès lors que c'est pas un espace de vie, à moins de permanence, des corps, des histoires qui sont inscrites dans le temps. Vous parlez de votre méthodologie, et aussi cette méthodologie passe par une façon d'arpenter le territoire. Il y a une première marche que vous faites qui relie deux endroits très symboliques, lesquels, et comment se passe cette marche-là?
Ben on est parti à 5 avec trois autres spipiens un jour d'hiver, juste avant Noël. Et donc on est parti du centre de Paris, donc de là où la commande a été proposée, donc du ministère de la Culture, donc vers la Tour Gautrio. Donc on a marché...
Pendant combien de temps ?
27 kilomètres à peu près, en passant par... sous des autoroutes, sur du béton. On a essayé de comprendre c'était quoi l'évolution du paysage, à quoi on avait affaire en fait, et qu'est-ce qui séparait la commande de l'endroit où cet objet, ce lieu, soit va être, en tout cas à l'époque, soit émergé du sol, soit être parachuté. Donc moi qui connais particulièrement rien à l'urbanisme ou à l'architecture, j'étais accompagnée d'experts qui m'ont bien... Voilà, c'était une espèce de marche pluridisciplinaire qui nous a permis à chacun et chacune de comprendre aussi quelles étaient nos compétences et les manières qui nous étaient données de pouvoir les partager. C'est aussi l'idée de SPIP, donc on est allé jusqu'au bout de cette idée de pluridisciplinarité. Oui.
Et vous faites quoi pendant cette marche? Vous ramassez des choses, donc vous échangez, vous le dites Anne-Guillaume, vous parlez, vous échangez aussi sur vos différents savoirs. Est-ce que la question de la mémoire est déjà à l'œuvre sur ce territoire et ces 27 kilomètres qui séparent la décision centrale et politique d'un lieu qui va devenir?
L'idée, c'est de pouvoir la documenter pour pouvoir en faire état à d'autres personnes, notamment nos commanditaires, et puis le groupe dans lequel on s'insère, ce programme. Donc, on décide chacun avec ses propres moyens, en choisissant d'explorer ce que l'on connaît déjà ou ce que l'on cherche à apprendre ou à découvrir.
certains éléments, certains notent le nom de toutes les rues par lesquelles on passe, certains enregistrent du son, donc il y a un petit, disons, une restitution sonore de ça. En ce qui me concerne, je décide de faire un herbier inspiré par le travail d'un artiste qui s'appelle Hugo Schiavi et qui avait fait un atlas des plantes rudérales de la Seine-Saint-Denis. On est en plein hiver et pourtant, il existe toujours des petits morceaux d'herbes et de plantes que je ne sais pas encore identifier, qui me sautent aux yeux et j'ai envie de valoriser ça et de le montrer. Donc je collectionne ces plantes, par exemple.
Sur ce trajet-là.
L'architecture, par nature, par essence, devait contenir son parvis et devait contenir son espace. La philosophie classique, en fait, sa grande métaphore, elle est exprimée par Descartes, et elle est magnifique, elle est celle du bâtir, mais de bâtir sur une fondation solide. On sent que la pensée de Descartes doit s'établir sur quelque chose de consistant, et ça se comprend. L'architecture est aussi irrémissiblement quelque chose qui est fait là pour s'enraciner et pour trouver une assise consistante.
On entend là la voix de Paul Chemetov. Il est dans un entretien avec François Chalin, un entretien diffusé en novembre 2001 sur France Culture. Il parle d'une architecture, la sienne, qui doit contenir son espace et se bâtir sur quelque chose de consistant. Lorsqu'on lit la totalité de votre publication « Construire un lieu », on se dit qu'on a affaire à quelque chose de consistant et de manifestement volontairement consistant par la superposition des sources. On y reviendra par une sorte de surgissement du matériel et du matériau. Vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, vous avez fait beaucoup d'entretiens, beaucoup de rencontres. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel dans cette publication-là ?
Eh bien, nous sommes allés effectivement rencontrer beaucoup de gens sur le territoire, des acteurs sociaux, des gens qui sont plutôt du côté de l'aménagement du territoire, enfin, et les questions qu'on leur posait étaient, c'est l'idée de l'enquête et de se laisser complètement surprendre par les réponses. Il s'avère que très vite on a compris que là effectivement on avait affaire à un territoire très complexe. On nous avait prévenu dès le départ que c'était un endroit très saturé d'enquêtes parce que 2005 bien sûr et les émeutes. Donc on s'est dit très bien, alors ne posons pas ces questions-là sempiternellement, posons directement la question du est-il possible de changer l'imaginaire de ce territoire ? Parce qu'il faut quand même dire que quand on est arrivé au pied de la tour au Trio, on s'est tous dit bon bah c'est bon, on l'a vu, on peut rentrer. Parce qu'on a très envie de rentrer, parce qu'on s'était imaginé que ça allait être, je sais pas, dangereux, compliqué. Enfin, moi, j'avais jamais mis un pied en banlieue parisienne, puisque je viens de la province. Ben non. Et du coup, donc c'était pour ça aussi que j'avais choisi cette commande, c'est parce que je me suis dit, ok, j'aime bien être à la rencontre des territoires. En tant qu'artiste, on est très souvent envoyé en résidence, aussi bien à la campagne qu'en Chine, au Canada ou je sais pas où. Bon là, il s'avère que la banlieue, je la connaissais pas, donc c'était une contrée très, très très exotique pour moi aussi quelque part. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'elle avait comme n'importe quel autre territoire ses complexités et ses choses merveilleuses à découvrir, quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'est immergé à l'intérieur de cet endroit et pour y révéler ses nécessités, c'est-à-dire les sources, les choses à garder, à prendre et ses manques aussi. Et c'est à cet endroit-là qu'on a commencé à enquêter et donc on est allé voir des gens, encore une fois, aussi différents que des gens qui attendaient au pied de la tour au Trio leurs femmes qui étaient sur le marché. On s'est acheté des collants au marché, des moules à gâteaux. Enfin, on a essayé d'avoir une petite vie sur ce territoire pour prendre la température en tant que subjective, en tant que nous, en fait.
Pour savoir si on peut changer les imaginaires et les imaginaires d'un territoire, vous allez soulever quelques coins de la mémoire ou quelques coins aussi de ce qui se construit, une forme de mémoire un peu contemporaine. Alors sans tellement en effet soulever la mémoire de 2005, mais d'autres questions. Par exemple, qui allez-vous voir et que posez-vous comme question ?
Les premières questions qui nous intéressent touchent à la question du trou, notamment donc avec le futur gare du Grand Paris Express qui va arriver au même endroit, ou en tout cas vraiment très proche. Et donc on sait qu'il va y avoir un trou, des travaux pendant des années. Le territoire est déjà en travaux très régulièrement depuis des années, donc les travaux existent, mais le trou... Et quel trou ? Un trou d'au moins 25 à 40 mètres qui va permettre de désenclaver ce territoire, notamment puisque
aujourd'hui pour aller du centre de Paris à Clichy-sous-Bois ou à Montfermeil, c'est assez compliqué. Il faut prendre un métro, un RER, suivi de 1 à 2 bus. Ça met au moins 1 heure et quart. Alors, la question n'est pas de rejoindre le centre de Paris. Mais en tout cas, ce grand Paris Express va permettre d'organiser une nouvelle manière de se déplacer dans le Grand Paris. Donc, ce trou, c'est notre première intuition. C'est ce qui va nous permettre de creuser l'histoire du lieu et d'y projeter pas mal de choses. On pourra parler du trou. Et puis après, il y a les pigeons. Le sujet qui fait sourire tout le monde et en même temps qui part de l'observation, puisque lors de nos premières visites autour de la Tour Utrillo, alors qu'on n'y avait pas encore pénétré, puisqu'on a eu l'occasion d'y monter plus tard, on se rend compte que la tour est vide, mais qu'elle est habitée par des centaines de pigeons. Et donc on se dit, mais que vont devenir ces pigeons lorsque la tour sera détruite ?
Non, vous vous dites pas que ça. Vous vous dites que vont devenir ces pigeons lorsque la tour sera détruite, mais vous formulez aussi une hypothèse qui est que le pigeon, il vole, qu'il a donc peut comme ça parcourir plein de territoires, se fiche des frontières, et notamment se fiche des frontières entre le passé, le présent et le futur, et ça vous emmène sur un territoire assez inattendu qui est la colombophilie. Qu'est-ce que vous posez comme question à ce club de colombophilie que vous rencontrez ?
On leur demande simplement... l'histoire de la colombophilie et ce qu'ils pensent des pigeons des villes, et très vite ils nous disent que ce sont évidemment pas les mêmes, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une certaine snobinardie sur le pigeon le colombophile et celui qui s'occupe du pigeon des villes. Donc c'est là qu'on est allé aussi à Paris voir les agents de la biodiversité et de l'environnement, qui eux sont donc des spécialistes des pigeons des villes, et qui nous racontent l'histoire du pigeon des villes, le fait que les pigeons ramiers, les pigeons voyageurs ont été abandonnés parce que les moyens de télécommunication sont arrivés. Enfin voilà, donc là autour du pigeon, on se rend compte qu'on est dans une espèce de stratigraphie temporelle immense, et que les choses évoluent, et elles n'arrêtent pas d'évoluer, et c'est surtout ça qu'on a envie de mettre en avant. C'est la question du déplacement, effectivement, temporel, géographique, et effectivement... le fait qu'il n'y ait pas de frontières temporelles pour l'instant.
Et qu'il y a aussi des frontières géographiques qui sont extrêmement persistantes et qui sont à travailler. C'est une force métaphorique qui vous est offerte, le pigeon dans cette tour Utrillo. Vous vous en servez pour des hypothèses au moment où vous réfléchissez, parce qu'à un moment donné, ce trou va être comblé, et vous servez du pigeon pour dire quelque chose de ce bâtiment qui va venir ?
On se rend compte surtout aussi que quand on discutait avec les gens, s'il y a beaucoup de pigeons, c'est qu'il y a beaucoup de pain. Donc effectivement, il y a beaucoup de populations à Clichy-Montfermeil qui sont plutôt d'obédience musulmane et qui ont ce scrupule à jeter le pain. Il s'avère aussi qu'on récolte des informations, encore une fois, qu'on n'avait pas forcément demandé d'avoir, qui nous parle de la condition alimentaire aussi, de acheter 10 baguettes pour le prix d'une. Enfin voilà, donc on se rend compte aussi de tout ce qui est d'un point de vue culture et culturel, et puis
économique,
et puis de l'ordre du territoire, de quoi on parle sur ce territoire, quels sont les manques et les nécessités. Ouais.
Ça vous emmène forcément vers la mémoire des grands bâtis, la construction d'une banlieue parisienne qui est aussi une période postcoloniale. Ça vous emmène vers ces mémoires un tout petit peu plus éloignées ?
On se pose la question, bien évidemment. L'enquête ne nous mène pas jusque-là, puisque d'une part, l'enquête est une première étape d'enquête, et en tout cas la publication fait état d'un premier moment de restitution. C'est des questions évidemment qu'on se pose, mais qu'on ne souhaite pas explorer de prime abord, puisqu'on essaye d'être emmené vers des sujets qui ne sont pas nos sujets de prédilection, même si le trou touche à beaucoup de choses qu'on connaît et qui nous intéressent, et à l'archéologie pour Anne notamment. Mais on cherche à aller vers l'inconnu aussi.
C'est ce qui nous a amené à aller rencontrer le chef, Louis, le fossoyeur en chef du Père Lachaise, qui est quand même une rencontre assez, assez étonnante. On lui a posé simplement la question du comment on creuse. et qu'est-ce qu'on trouve. Et donc il nous a raconté le jour de son entretien pour être pour travailler au Père-Lachaise qu'il a dû creuser des heures durant en gardant son sang-froid, sans râler, en étant sûr de son geste. Donc c'était très très beau.
C'est sûr qu'il fait froid, pensait-il. Ce type de Sulphur Creek avait dit vrai quand il l'avait raconté combien il pouvait faire froid parfois dans ce pays. Et lui en avait ri sur le moment. Ça montrait bien qu'il ne fallait pas être trop sûr de rien. Pas d'erreur. Il faisait froid. Il continua d'aller et venir, en tapant des pieds et en battant des bras, jusqu'à ce que la chaleur recouvrait le rassure. Alors, il sortit ses allumettes et entreprit de faire un feu. Il trouvera du combustible dans les sous-bois, où les crues du dernier printemps avaient entassé une provision de branches mortes. En commençant, avec prudence, petitement, il obtint bientôt un brasier ronflant devant lequel il fit fondre la glace de son visage et sous la protection duquel il mangea ses biscuits. Pour le moment, le froid de l'espace était vaincu. Satisfait du feu, le chien s'était étendu assez près pour profiter de sa chaleur, assez loin pour éviter d'avoir le poil roussi.
Écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
On vient d'entendre deux choses. D'une part, une musique dont vous allez peut-être nous dire quelque chose, où presque des oiseaux sont là, ou des pigeons. Et d'autre part, un extrait de Construire un feu, cette nouvelle de Jack London, dans laquelle vous vous inscrivez, je le disais en introduction, comme dans un lit de rivière. D'ailleurs, il fait écho à ces rivières qui drainent du bois, qui amènent du bois, qui peut éventuellement servir à ce feu. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette nouvelle de Jack London ?
Elle raconte l'histoire d'un homme qui essaie de survivre en traversant des grandes contrées sauvages et lointaines. Et pour survivre, il faut qu'il construise un feu. Je pense que ce qui nous a donné l'idée de prendre ce livre-là, c'est pas forcément au départ le feu des émeutes. C'est plutôt tous les embûches qu'il rencontre pour survivre. Quand on était au départ à Clichy-Montfermeil, on se posait la question, ok, comment faire pour construire un lieu? C'est-à-dire comment rendre les conditions favorables pour implanter quelque chose. Encore une fois, est-ce qu'il faut le faire arriver du dessus? Est-ce qu'il faut le faire venir du dessous? Est-ce que les trous pourraient lui permettre d'émerger tranquillement avec ses 8 années à venir? Et c'est là qu'on a regardé tout ce qui était positif, négatif, qu'est-ce qui était possible de prendre en considération pour que ça marche. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi sur ce territoire qui permettrait que ça ne marche pas. Donc c'était à cet endroit-là qu'on s'est imaginé que il fallait pour faire lieu, il faut construire un lieu. Et l'analogie avec le titre de Jack London était c'est tombé comme ça. Et ce livre est magnifique aussi parce que à l'intérieur de ce livre, il y a la neige, il y a des allumettes, il y a un homme, il y a un chien, il y a un feu, il y a plus de feu. Ou alors il y en a encore. En fait, c'est toujours les mêmes objets humains et non humains qui se partagent le décor. Et finalement, à Clichy-Montfermeil ou dans n'importe quel territoire, on a toujours des points de repère qui sont assez identiques et qui tournent en fonction de notre avancée et notre regard sur le territoire.
Dans quelle mesure il a été un outil, ce texte-là? Parce que c'est très visible dans la publication « Construire un lieu », la manière dont, prenant concrètement chacune des pages de la nouvelle, vous superposez des photographies, des citations, des extraits d'entretiens que vous avez menés. Et c'est comme si la mémoire s'épaississait et que vous creusiez dans la stratification temporelle. Mais au jour le jour, de manière quotidienne, comment ce texte de London vous a servi?
Il nous a beaucoup nourris, notamment parce qu'il raconte une histoire qui est basée sur des éléments extrêmement simples. C'est ce que racontait Anne sur la neige, le feu, la survie, la vie, la mort. Donc c'est vraiment des éléments fondamentaux. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'était de revenir aussi aux fondamentaux du territoire, qui ne sont pas de l'ordre de la survie, quoi qu'on pourrait parler de la survie du projet ou de la vie du projet, de sa renaissance, mais qui sont plutôt de l'ordre des fondamentaux et de ce dont le projet dépend, ce dont le territoire dépend, ce à quoi il est relié et ce type de questions. Donc on a commencé notre enquête, puis on a redécouvert ce texte dont le titre était parfait, construire un feu, construire un lieu. Et ça nous a servi comme un territoire. On a décidé de prendre le livre comme territoire et d'y insérer notre enquête. Donc au lieu de faire une enquête, et parfois on peut avoir recours à la fiction pour pouvoir sortir des impasses de l'enquête, on a décidé d'inclure notre enquête dans le récit. Et donc on s'est servi de la trame narrative et de la dramaturgie du livre pour y insérer différents thèmes qui touchaient à... Alors on commence par le décor, on parle de l'incident déclencheur au moment où son pied tombe dans l'eau, etc., etc. Donc ça nous a servi comme une sorte de... L'histoire de la mémoire aussi de cet ouvrage, de la littérature, nous a permis aussi de sortir parfois de certaines difficultés qu'on avait pour se dire qu'on est là aussi pour réinterroger et pour réinvestir l'existant. Et là, pour le coup, une œuvre littéraire très connue. Et on a aimé cette possibilité qu'on s'est donnée de reprendre, de retravailler et d'aller vraiment entre les lignes, entre les mots. Et ça a été notre outil quotidien.
De Luisette, pour reprendre un extrait d'un entretien avec Eric Reynard, qui fait partie des entretiens que vous avez menés. Mm-hmm. Dans cette nouvelle de Jack London, il est question de survie, il est question de nécessité, du chaud et du froid, et puis voilà, de cette nécessité de rester en vie, se pose pour la question de ce lieu à venir, la nécessité de son existence. La nécessité de son existence à Clichy-Montfermeil, quand évidemment... tant d'autres choses sont nécessaires. Comment est-ce que vous avez traité cette question de la nécessité auprès de qui ?
La nécessité, elle se situe encore une fois dans le... Est-ce que les conditions sont déjà réunies pour favoriser quelque chose qui peut apparaître ? Ou est-ce qu'il faut les inventer et comment les inventer ? Donc cette année, pour vous répondre, on est allé sur la question de la nécessité. On a regardé aussi bien les cartes, la cartographie. On a discuté bien sûr avec les gens sur place. On a fait une grande balade aussi avec des femmes qui apprennent à parler français dans le bois. Bondy, là où il y a Cosette et Jean Valjean. Et donc on a marché, on a discuté avec ces femmes, beaucoup, beaucoup de femmes en fait, et donc avec Fatima et Gérard Picot, enfin des gens qui sont vraiment impliqués sur ce territoire et qui travaillent avec les gens sur place. Et on se rendait compte que la nécessité aussi du territoire là-bas, c'est-à-dire que les femmes, pour la plupart, c'était la première fois qu'elles entraient dans ce bois qui est à 5 minutes de chez elles. Et ce qui était joli aussi, c'était de se dire, voilà, là, elles ont un espace à elles qu'elles n'ont pas forcément dans l'espace social. Donc, faut pas oublier qu'à la base aussi, on était sur la question de l'espace public. À quoi ressemble-t-il? Qu'est-ce qui s'y passe? Et encore une fois, l'espace public, là où nous évoluions plus tôt, c'était sur le marché, en fait, tous les mercredis matins. Et ce marché va pas arrêter de bouger. En 8 ans, il va à cause des trous, les fameux trous. Moi, les trous, je les vois plutôt comme des choses très positives, comme quelque chose qu'il faut pas forcément combler, mais qui peut permettre de faire des passages, de créer des passages, d'inventer des projections. C'est des lieux de projection. Voilà, comment vivre avec quelque chose qui est en métamorphose. Donc, plutôt le voir comme quelque chose de positif, plutôt que quelque chose de négatif. Donc, on a influencé, entre guillemets, l'enquête sur ce genre de nécessité, mais de ce point de vue-là.
Et pas du point de vue de la nécessité de l'art plutôt qu'autre chose. Parce que ce qui se préfigure pour 2023, c'est un lieu de recherche, de pensée et d'art, et pas un très grand centre social ou un centre d'accueil de soins psychiatriques ou un centre d'accueil de réfugiés. Est-ce que vous avez eu à traiter cette question de la hiérarchie des nécessités ?
C'est une question à laquelle on pense, bien évidemment, et pour laquelle on propose d'établir un protocole, c'est-à-dire que notre enquête est une enquête préalable presque à l'enquête, ou en tout cas à l'enquête qui permettra de faire émerger les nécessités. Et donc on propose à la fin de cette publication un protocole qui, sous forme collaborative, je n'oserais peut-être pas dire participative, mais en tout cas sous une forme d'échange, permettrait de constituer du commun et de pouvoir faire émerger les nécessités du territoire, sans oublier bien sûr qu'il faudrait interroger les nécessités aussi de l'État à construire ce projet à cet endroit. Et c'est une question à laquelle on ne souhaite pas répondre en tant que chercheuse à ce moment-là, puisqu'on pense que la réponse doit venir du territoire lui-même, des gens qui l'habitent et des gens que cela concerne, puisqu'on est concerné évidemment en tant que citoyenne et que personne intéressée par ces sujets. Mais
parce que c'est aussi une mémoire et des mémoires de ce lieu que de n'avoir pas été entendue dans les nécessités. On entendait la voix de Claude Dillin, ancien maire de Clichy-sous-Bois, qui est quelqu'un qui s'est énormément battu pour sa ville et qui parfois n'a pas, en tout cas dont la voix n'a pas porté suffisamment haut pour que des décisions soient prises. C'est une mémoire de voix non entendue, c'est quelques territoires.
Moi, je crois que sans se poser effectivement la question du désir, parce qu'on n'est pas allé chercher du côté vraiment de la nécessité de l'État à faire lieu là-bas. En fait, entre les habitants, les acteurs du territoire et les artistes, il y a l'État, il y a cette volonté d'État. On n'est peut-être pas allé encore de ce côté-là, mais plutôt, moi, j'aime l'idée aussi l'artiste et ses capacités. Pour moi l'artiste est quelqu'un qui peut clairement changer l'imaginaire d'un territoire. Alors moi je pars du postulat que oui. Voilà. Ensuite, ce qui peut être intéressant de mesurer ou d'analyser, ce serait ses effets. C'est-à-dire quels sont les effets sur le territoire, sur ses habitants, sur ses acteurs. Donc ce serait essayer de rendre sensible ce passage-là. Ce passage qui est du coup très art participatif. Enfin, moi, j'ai pas trop de soucis avec ces mots-là, parce qu'au contraire, en fait, l'art participatif, le vrai, le beau, c'est permettre aux habitants de se réapproprier leur espace, de d'être acteurs de leurs espaces et plus faire une différence entre les acteurs du territoire et les habitants, et donc leur permettre de prendre part, de contribuer et puis de bénéficier aussi de ce projet collectif et juste d'inventer du commun, mais ensemble. C'est-à-dire que les artistes savent pas forcément mieux faire que ni les uns ni les autres. Par contre, on peut peut-être essayer d'apprendre ensemble, en fait.
Précisément parce que rien n'est figuré, ça devient des espaces mentaux, en fait. Donc, même s'il y avait rien d'observable, pour moi, il s'y passait beaucoup de choses, ne serait-ce que parce que des fois, j'avais beaucoup de mal à y rentrer. Des fois, en effet, il y avait rien, mais par exemple, je voyais des traces de passage ou des ordures étonnantes ou des je trouve que la seule métaphore opérante pour parler de tout ça, c'est l'érotisme, en fait. Dans l'espace de l'érotisme, tout fait signe. Rien n'est insignifiant, rien n'est Le corps veut toujours dire plus que lui-même. Et ben là, c'est pareil. L'espace voulait toujours dire plus que ce qu'il ne disait. Donc j'étais toujours ailleurs. Et pour moi, il se passait toujours beaucoup de choses.
Ici la voix de Philippe Vasset dans un entretien pour l'émission Pas la peine de crier en juillet 2013. Philippe Vasset qui a été auteur du Livre Blanc, qui a arpenté lui aussi le territoire et notamment un territoire périphérique autour de Paris et qui est allé dans les trous des cartes, dans les moments blancs où les lieux n'étaient pas répertoriés et qui a passé des cloisons, qui a arpenté. Vous le disiez tout à l'heure, l'idée du trou et du trou de mémoire et du trou dans l'espace vous a beaucoup travaillé toutes les deux. Quand il y a un trou, et il ne faut pas forcément le combler, c'est ça que vous disiez, Anne-Guillaume ?
Ben, on a vu un psychologue, un historien de la psychologie qui nous disait que les trous de mémoire doivent être comblés pour pouvoir passer au-delà. J'imagine, et j'aime beaucoup en tout cas, l'idée de ce film de Marco Ferreri qui s'appelle « Touche pas à la femme blanche », un film qui a été tourné dans le trou des Halles, du chantier des Halles en 1974. Il a juste eu l'occasion et la bonne idée d'utiliser quelque chose en train de se faire. Donc il y a quelque chose d'un temps présent, ce temps-là, et donc il décide d'y faire rejouer l'histoire de l'Amérique. Ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment fou parce que beau parce que tout d'un coup des temporalités se croisent, des territoires se croisent, quelque chose se rejoue, quelque chose peut être réactualisé, donc reseté aussi. C'est l'endroit de tous les possibles pour moi, le trou quand il apparaît est précisément ouvert, quoi.
Et d'ailleurs, il écrit ce même Ferreri que les gouffres appellent le récit. Donc, ça peut être aussi du côté des récits de soi. Vous rencontrez un psychiatre, il me semble, ou en tout cas, vous allez voir dans des institutions où il est aussi question des trous psychiques. Pourquoi est-ce que vous avez été jusque-là dans l'aspect polysémique de votre travail ?
Les trous du langage. La question était, est-ce qu'il y a des trous dans la langue ? Et oui, et souvent, ils sont remplacés par des comment on dit ?
Des lapsus,
c'est ça.
Et l'idée, c'était d'aller explorer la question du trou à différents endroits. Le psychiatre travaille pour justement trouver des moyens de faire des liens grâce au trou ou pour combler le trou. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans les rencontres qu'on a faites, puisqu'on est bien sûr allé voir des archéologues, et j'avoue que j'avais pas vraiment je connaissais pas grand-chose à l'archéologie. Et donc, on est allé à Clichy-sous-Bois pour voir un chantier de fouilles archéologiques préventives qui avait lieu parce qu'il y a un tramway qui va arriver. Donc, ils sont obligés de faire ça. Et cet archéologue nous montrait les tranchées donc, qui ont pour but de voir s'il y avait quelque chose. Et elle nous racontait qu'elle cherchait les trous, justement, des fosses ou les traces de poteaux, les trous de poteaux. Et donc, ça m'a vachement étonnée parce que je pensais qu'elle cherchait des objets. Et en fait, évidemment, je suppose qu'elle cherche des objets, mais elle cherche aussi l'absence. Et donc, c'est par le trou qu'elle remarque ou qu'il cherche les traces des occupations humaines. Et ça, c'était un élément...
C'est ce qui nous a permis de faire le lien avec une interview qu'on a fait de Jean-Baptiste Farkas, un artiste qui travaille sur la soustraction et qui aime aussi précisément l'absence, le trou. Il explique dans l'interview que clairement il n'y a pas de système sans trou, et s'il n'y avait pas de trou, il n'y aurait plus de possible. Et donc il cite ce film de Chaplin qui s'appelle Circus, où c'est l'histoire d'un chapiteau d'un cirque qui disparaît, et on voit Chaplin effectivement qui trace l'absence de ce chapiteau au sol. Et ce geste là permet, j'imagine, moi je le vois comme quelque chose, comme un observatoire. C'est comme si on pouvait s'imaginer aller à Clichy-Montfermeil et à chaque fois faire des relevés, comme les archéos font des relevés de terrain, ou beaucoup, toutes les sciences humaines d'ailleurs, à leur manière en tout cas, mais faire des relevés de quelque chose qui a apparu, qui aurait disparu, quelque chose qu'on pourrait inventer. Encore une fois, on pourrait mélanger le passé, le devenir, la fiction et la réalité pour saisir l'importance autant du quotidien que de l'imaginaire. Donc faire cette espèce de travail qui mélange tous les territoires et tous les champs de la connaissance, quoi.
De quelle manière, puisque c'est un premier moment hein, de la préfiguration de cet endroit qui verra le jour en 2023, comment est-ce que ce relevé de terrain et de mémoire va nourrir la construction réelle ? Est-ce que vous le savez déjà ?
Nous, ce qu'on propose à nos commanditaires, c'est, disons, à la fois un matériau d'enquête donc, qui est synthétisé dans cette publication, des protocoles et des pistes. Ces pistes, elles pourraient être exploitées de mille manières. On pourrait les exploiter nous-mêmes. Elles pourraient donner lieu à plein d'autres choses. Donc, on leur donne en même temps une manière où on leur donne le moyen de pouvoir trouver, grâce à des protocoles qu'on mettra en place, des moyens de transformer ou d'agir finalement sur la transformation de l'imaginaire de ce territoire, sur nos repères.
Oui, c'est ça. Et l'action, en effet, c'est d'embarquer. C'est d'embarquer avec les gens. Et c'est cette idée de la recherche, en fait, en art comme en sciences humaines, puisque l'art, moi je suis artiste, c'est un architecte, mais en fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on a juste des moyens qui sont pas forcément a priori les mêmes pour dire la même chose, mais ils se mélangent, ils se glissent, ils se juxtaposent parfaitement. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on peut très bien... mettre les gens au travail et donner à voir le chemin plutôt qu'un résultat, sachant que le résultat pour certains ce sera la construction de ce projet Médicis. Moi je vois pas comme Neverending Object la fin, c'est pas ce qui m'intéresse personnellement, mais bien au contraire, du coup ce serait plutôt faire créer des étape par étape, et à chaque fois que une enquête se termine comme cette publication, continuer à travailler pour que des formes émergent et pour qu'on les remette toujours en question et qu'on les remette toujours en jeu, en fait,
et qu'éventuellement se mettent à jour des nécessités de mouvement ou d'érotisme, pour reprendre le mot de Philippe Vasset, qui soit complètement autre que ce projet de lieu d'art et de pensée appelé projet Médicis. C'est-à-dire que finalement, c'est beaucoup plus large que vous mettez à jour dans la publication.
Oui, je pense que ça fait état aussi d'un moment particulier qui pourrait être tout à fait appliqué et juxtaposé à un autre territoire aussi, oui. Même si on pose la question de la politique culturelle, de cette idée que ce temps permet de faire un laboratoire qui parlerait des politiques culturelles à venir. Je pense qu'on travaille avec des gens passionnants qui sont intéressés par ces sujets-là, qui ne sont pas du tout en train d'implanter quelque chose, bien au contraire. Ouais.
Est-ce que c'est le vent, ou bien ce sont les fantômes qui chantent, ça qu'on entend, ça qu'on voit, qui énerve les singes, des singes qui s'enroulent dans des draps vivants, des animaux ma boule qui font bondir le blanc, des singes du linge, la vie, c'est étonnant. Est-ce que c'est le sang des betteraves qui sanglotent dans la pente, la pente qui descend, un toboggan pour les singes, des singes qui s'enroulent dans des draps vivants, des animaux ma poule qui font bondir le blanc, du rouge, du linge, la vie, c'est un peu flippant. Da 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 da.
De cette manière, on boucle la boucle. On a commencé par les souvenirs d'enfance d'Éric Reinhardt. Ces enfants-là ont 11, 12, ceux qui chantent. Ce sont des garçons et des filles. Ils sont élèves au collège Anatole France à Pavillon-sous-Bois, en banlieue parisienne. Et puisque l'enfance est le plus bel avenir, on appelle ça patate de vivre. Ce sont les mots de Halt qui parlent de ce projet. Le disque sortira chez Objet Disque le 20 juin prochain. Et cette chanson s'appelle « Est-ce que c'est le vent ?» C'est vous qui avez souhaité l'entendre, Océane Ragossi et Anne Guillaume. Pourquoi ?
Parce que Halt, ce sont des gens fantastiques.
C'est tout.
Non, parce que oui, déjà surtout, mais c'est aussi parce que ça montre, ça prouve comme la collaboration peut être vraiment synonyme de choses merveilleuses. Et je pense que l'art de terrain, car c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, l'art de terrain fait du bien.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Et c'est la voix de Romain qui dit qu'il est 14h51 sur France Culture. À cette heure-ci, on fait entendre des souvenirs ou des moments importants. Cette semaine, c'est Marie-Josée Justamont qui se prête à l'exercice. Aujourd'hui, elle nous parle de l'entrée de la photographie dans sa vie.
Ça intervient vers 17-18 ans. Je rencontre un jeune homme absolument charmant qui, lui, avait quoi, 22 ans à ce moment-là, qui faisait des études de photographie à Beaunieu, dans le Luberon, auprès de Denis Briat, un merveilleux photographe, très, très, très grand photographe, talentueux. Avec d'autres jeunes gens, à peu près du même âge, hein, tous aussi talentueux, c'était d'un très haut niveau, bien évidemment. Pour donner une idée, il y avait par exemple Jean-Marc Bustamante, qui a été nommé il y a peu de temps directeur des Beaux-Arts à Paris. Et j'ai, évidemment, nous sommes tombés amoureux, tout simplement, et j'ai commencé à partager sa vie et à partager, du coup, la passion de la photographie, à découvrir la photographie. Et quand on a 18 ans, j'avais passé le bac il y a peu de temps, j'étais étudiante, bien sûr, et qu'on découvre aussi bien Diane Arbus qu'André Kertész, qu'Edward Weston, ou tous les autres, mais c'est un choc fantastique, absolument époustouflant. C'est vraiment des mondes qui s'ouvrent. D'un seul coup, découvrir vraiment une esthétique porteuse d'émotions fortes, c'était vraiment une ouverture au monde. C'était très puissant. Je repense à un moment très fort, je pense aux images de Guy Le Querec sur la révolution des œillets au Portugal, par exemple. Mais je repense à William Klein, je repense à beaucoup d'autres. Puis donc, travailler avec eux pendant très longtemps aux rencontres internationales de la photographie. Travailler avec un en particulier, puisque c'était lui le créateur des rencontres, Lucien Clerc, et alors avec qui vraiment qui a été un de mes pères, hein, dans le métier de la culture en général, parce que Dieu sait que c'était un grand photographe, mais que c'était aussi un amoureux de la culture et des arts en général, de la musique aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui a été fondamental pour moi, son œuvre également. Mais lui aussi, la personne ouverte, en même temps ancrée dans sa culture, lui aussi. C'était un être passionné. Ce n'était pas un caractère facile du tout. Mais il a toujours eu justement ce désir de partager, d'expliquer aux autres à quel point c'était fondamental. Et quand j'ai commencé à y travailler, aux rencontres, je vous assure, je m'occupais de la communication. J'appelais même la presse locale, hein, le journal La Provence. J'expliquais que c'était un art au rédacteur en chef. Il me riait un peu au nez. C'était pas simple du tout. Mais Lucien, lui, envers et contre tout, voilà, était capable de transmettre cette passion, de persuader les politiques, de l'épauler dans la création des rencontres, de soutenir cet art. Et on voit à quel point cet art s'est magnifiquement épanoui.
guess it happened back then. I don't mind where you've been, but I would rather not know. You say
Psychic Hills avec Hope Sandoval pour le titre I Don't Mind. Terminer l'émission, ce morceau choisi par Somanina. Merci beaucoup Anne-Guillaume et Océane Ragoussi d'être venus nous parler de ce premier moment d'enquête et de cette publication Construire un lieu. Vous étiez en deux lieux au moins aujourd'hui, ici dans nos studios, et où ça ?
Oui, puisque vous nous avez donné l'occasion de creuser la mémoire d'un lieu à venir, et on était à la fois ici et ailleurs au Théâtre des Amandiers avec toute l'équipe de SPIP de Sciences Po qui nous écoute et qui est en ce moment même en train de restituer tous ces travaux géniaux.
Merci à vous deux. Et les nouvelles vagues, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça peut se réécouter sur franceculture.fr. On peut aussi s'écrire et se lire via le site internet. On peut le faire via Twitter et Facebook. Et on est toujours ravis de vous entendre, de vous lire et de vous répondre. Merci à Romain de Bec-de-Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et Marie Aubert qui imaginent avec moi cette émission cette semaine, et à Somanina qui la réalise. Aux manettes aujourd'hui, c'était Élise Leu, et au droit d'auteur, Charles Barjou.